FM Plus, le billet d'humeur.
Marie-Agnès Salezada, un billet d'humeur autour du recueil écrit par François Mourlet, La langue du tamanoir. Alors, c'est un récit écrit par cet auteur qui était journaliste spécialisé dans le domaine de la santé. Il a écrit autour des plantes, de leurs vertus, de la recherche pharmaceutique et des abus des laboratoires qui commercialisent les molécules. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les thérapies naturelles et les plantes médicinales sous le nom de Paul Ferris. Son récit, sous la forme de 5 conférences qui abordent le sujet par des moyens détournés, la promenade, l'observation, les voyages et les relations familiales. C'est aussi une éloge de l'amour filial, enfin c'est un peu comme ça que je l'ai lu, et du théâtre familial sur lequel il pose un regard acéré. Je vous livre quelques extraits de cette écriture où le regard du fils et son attachement ferraillent avec le réalisme. Et j'ai vraiment souri devant, je vous livre cette description truculente du climat familial. Alors nous sommes autour d'une promenade entre le fils et la mère aveugle et percluse de douleur. « C'est ici que j'ai rencontré ton père, » dit-elle. J'étais surpris que le culte étrange qu'elle vouait désormais, à son défunt mari. De toute ma vie d'enfant, puis adolescent, puis d'adulte, je ne les avais pas vus un seul jour, une seule heure, sans se déchirer, et même parfois se battre. Ma mère étant la plus redoutable, giflant ou griffant mon père, qui tentait de la maîtriser en la saisissant par les poignets. Il répondait en émaillant ses imprécations de latinisme, ce qui ne ralentit ses pas les tombereaux d'injures, au contraire. « Noli me tangere, pauvre crétin, lavette, pauvre type, fiche-moi la passem, morua, tracta, lupa, va te faire poursuivre par toutes les cavitatibus. Prétentieux, petit fonctionnaire, parvenu, quisquilia, impuissant, castra, petite bite. » Leur dispute s'arrêtait de deux façons possibles. Soit mon père sortait en claquant la porte, allant se consoler, je ne suis jamais ni où ni comment, soit ma mère auto-monter sa propre mayonnaise jusqu'à la crise de nerfs, tourner de l'œil et s'écrouler sur le carrelage de la cuisine. Alors mon père, penaud, la transportait sur le lit matrimonial où elle dormait jusqu'au lendemain soir. Il s'était déchiré au point que je m'étais souvent demandé si ce n'était pas ce qui l'avait tué, si ce n'était pas ce qui l'avait fait. Elle fait vivre et si papa avait vraiment pu être mon géniteur. Pour leur rare moment de complicité, ils ne s'étaient entendus que contre moi. Un autre extrait. Alors, j'ai découvert, au travers de la lecture de ce récit, puisque nous parlons de médicaments et d'abus, voici ce que j'ai appris autour de l'aspirine et de la grippe espagnole que j'ignorais complètement. Pourtant, j'ai quand même étudié dans le domaine paramédical, mais je n'avais jamais entendu parler de cela. Comme tout chercheur ayant travaillé pour un géant de l'industrie pharmaceutique, j'avais en mémoire le cas de l'aspirine. Curieusement, les informations des revues scientifiques internationales n'avaient jamais été relayées par la presse grand public. Ainsi, le JAMA, Journal of American Medical Association, des chercheurs avaient analysé les raisons de l'hécatombe de la grippe espagnole de 1917 à 1919, responsable d'au moins 100 millions de morts selon des réévaluations récentes, soit deux fois plus que la totalité des victimes de la Première Guerre mondiale. Mes collègues étaient allés jusqu'à ouvrir les tombes et les fosses communes pour autopsier des dizaines de morts. Ils avaient examiné les tissus internes, les os, les cartilages, les dents, les cheveux, les lésions artérielles, les espaces anormaux dans les poumons ou les traces laissées par le virus. La maladie à elle seule aurait certes pu tuer des personnes âgées ou des enfants, mais pas autant et en aucun cas des humains en pleine force de l'âge. Les cadavres exhumés présentaient des quantités faramineuses d'aspirine. La conclusion de l'étude était sans appel. Les malades auraient pu survivre à la grippe, ils auraient pu survivre à des surdosages d'aspirine, en aucun cas aux deux En même temps, les faits historiques venaient à l'appui de cette théorie. En février 1917, ayant perdu son brevet américain sur l'aspirine, ce qui ouvrait la vente du médicament aux autres laboratoires, la société Bayer avait contre-attaqué avec des campagnes de publicité très agressives, sans indication de posologie ni mise en garde sur le niveau de toxicité. Fin 1918, confronté à une épidémie mortelle que personne ne savait endiguer, il s'agit là de la grippe espagnole, influencé par les promesses miraculeuses, les médecins prescrivirent à tour de bras l'aspirine et à des doses jusqu'à 100 fois supérieures à celles d'aujourd'hui. Je vous laisse méditer sur cela.